Bonjour et soyez les bienvenus à l'émission Le quotidien des quotidiens, édition du vendredi 18 mai 2018. Bonjour, cher Maurice Bolduc.
Oui, bonjour.
Ça va bien?
Oui, toi-même.
Oui, allons d'un long congé hein, pour plusieurs.
Oui, bon, un beau 3 jours qui s'annonce.
Oui, oui, je pense que quelques personnes ont déjà commencé à être en congé parce mm-hmm. que vraiment, il n'y avait pas grand monde dans le métro et des gens qui s'affairaient à faire un peu de jardinage. On dit qu'on peut planter les fleurs pendant le long week-end de la fête de Dollar ou la fête de la Reine, c'est selon.
Moi, j'ai entendu dire, il paraît, après la pleine lune du mois de mai. Est-elle passée? Je sais pas.
Je sais pas. Moi, ma grand-mère, Adrienne Denis, qui est née sur une terre, qui connaissait bien la nature, nous disait cela et on l'a toujours respectée. Mm-hmm. Mais c'est vrai que des gels au sol, il peut en avoir d'autres, mais en tout cas, paraît-il que dans la moyenne, c'est le bon moment pour le faire. De toute façon, on a plus le temps aussi.
Oui, oui, bon, 3 ou 4 jours selon les gens, c'est bon.
18 mai, qu'est-ce qui s'est passé?
Quelques trucs. C'est l'introduction. Facebook fait son apparition à la bourse de New York. Le 2012, un peu loin.
Donc 2012, ouais, 13e siècle.
Mm-hmm. donc Facebook fait son apparition. En 2007, c'est un peu fait divers, la GRC accuse de traite de personnes un couple de Laval et, faute de preuves, ne pourra pas les accuser d'exploitation d'une domestique éthiopienne. En 1982, Bombardier obtient à New York un contrat de 1 milliard pour 825 wagons de métro. En 1980, c'est le début de l'éruption du mont Saint-Hélène dans l'État de Washington qui va faire 57 morts et la montagne va rabaisser de 400 mètres quand même. En 1969, c'est le lancement du vaisseau Apollo 10, parti en reconnaissance autour de la Lune pour Apollo 11 qui s'y posera en juillet. En 1952, Paul Robeson, à qui l'administration Truman avait retiré le passeport pour ses sympathies communistes, donne un tour de champ à la frontière de la Colombie-Britannique et de l'État de Washington, faire un petit pied de nez à cette administration. En 1878, la France obtient de la Colombie une concession pour percer un canal dans l'isthme de Panama, qui deviendra le canal de Panama, évidemment. En 1803, c'est la création du drapeau haïtien. En 1804, le Sénat français proclame Napoléon Bonaparte empereur. J'ai quelques naissances. Le compositeur autrichien Gustav Mahler naît en 1860. En 1920, c'est le pape Jean-Paul II qui naît dans sa Pologne natale. Et en 1799, c'est le dramaturge... Non, en 1732, les dates sont comme mélangées.
Oui.
Donc, en 1732, le dramaturge français Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais naissait. Ça fait le tour de ces dates éphémérides de ce 18 mai.
18 mai, 12-12.
Ah, bon, oui. C'est peut-être la vieille publicité d'Hydro-Québec. On est 12-12,
ah,
faut
oui.
se parler.
Hey, ça fait longtemps, ça. Hein?
Ouais, qu'est-ce que...
Merci, Maurice. À la une de la presse, exclusivité, le plan Legault pour gouverner, un conseil des ministres minceur, un statut possiblement minoritaire. Encouragé par les sondages, François Legault a donné le feu vert à ses principaux collaborateurs pour qu'ils entament la préparation d'un premier gouvernement caquiste. Han Solo, héros des temps modernes, Solo A Star Wars Story, prend l'affiche. Cannabis, les producteurs canadiens à la conquête du monde. Pour 65 $, offrez-vous un faux diagnostic d'épuisement. Un médecin radié 6 mois pour avoir monnayé des billets médicaux complaisants. Le plan Legault, conforté par les sondages qui unanimement prédisent que la coalition Avenir Québec prendra le pouvoir, François Legault a donné le feu vert à ses principaux collaborateurs afin qu'on entreprenne la préparation d'un premier gouvernement caquiste. La démarche a débuté sur un refus. Lucien Bouchard n'a pas voulu jouer de rôle dans la conception d'un gouvernement Legault, a appris la presse. Le chef caquiste lui a passé un coup de fil il y a quelques semaines pour savoir s'il serait prêt à diriger un éventuel comité de transition. L'ancien premier ministre a refusé sur le champ. Mais les choses se sont déroulées différemment avec d'autres éminences grises des années péquistes. L'ancien secrétaire général des gouvernements Landry et Marois, Jean Singelais, ainsi que l'ex-chef de cabinet de M. Bouchard, Maître Hubert Thibault, ont accepté un échange informel avec les émissaires de François Legault, Martin Koskinen et Pascal Maillot. Quelques conclusions déjà au sein du groupe de ses conseillers. Deux postes seront névralgiques pour le prochain gouvernement, le secrétaire général et le responsable des nominations. D'ores et déjà, la CAQ souhaite passer à une autre génération de mandarins. La première cible vient d'avoir 50 ans, une jeunesse dans cet univers de sexagénaire. Pour le poste de secrétaire général, le premier fonctionnaire, les yeux se tournent vers Yves Ouellet, président de la Société québécoise des infrastructures. Autre poste clé, le responsable des nominations gouvernementales n'est pas encore choisi. Dans ce cas, on songe à chercher à l'extérieur un spécialiste en ressources humaines afin de rendre plus systématique l'évaluation des candidats. Le gouvernement Couillard, en 4 ans, s'est distingué par ses erreurs dans le choix des dirigeants. Un médecin de famille qui a rédigé pour 65 $ pièces des billets médicaux sur la base de faux diagnostics à des élèves du Collège de Maisonneuve, leur permettant ainsi d'annuler leurs cours sans pénalité, assure avoir agi dans l'intérêt de ces jeunes pour les empêcher notamment d'être recrutés par le groupe armé État islamique. Le docteur Raymond Rezet vient de se faire réprimander par son ordre professionnel. Devant le conseil de discipline du Collège des médecins, le médecin fautif a tenté de se justifier en disant qu'il cherchait à éviter que les élèves abandonnent leurs études, sombrent dans une dépression, consomment de la drogue et soient recrutés par l'ISIS, groupe armé État islamique. Le conseil de discipline a rejeté cette argumentation, la qualifiant de surréaliste, selon sa décision rendue publique hier, en ajoutant que le médecin était surtout motivé par des intérêts financiers. Et pour terminer sur cette nouvelle, le médecin a plaidé coupable aux 13 chefs d'infraction de la plainte déposée contre lui. Il sera radié temporairement à compter du 14 juin prochain pour une période de 6 mois, en plus de devoir payer une amende de 10 000 $. Demandeurs d'asile, pas de nouvelles ressources. L'Agence des services frontaliers du Canada a commencé à réaffecter ses agents au Québec afin de pouvoir gérer la hausse du nombre de demandeurs d'asile qui entrent au Canada par le chemin Roxham en Montérégie. Cela occasionnera des retards aux autres points d'entrée au pays cet été, prévient Jean-Pierre Fortin, président national du syndicat des douanes et de l'immigration. Depuis 1 an et demi, on demande à l'Agence des services frontaliers du Canada d'engager de nouvelles ressources pour répondre à cette demande, dit-il en entrevue. Ils n'ont pas engagé. Alors, ils sont pris de court. Ils envoient des ressources déjà existantes de Toronto, de Montréal-Trudeau, de l'Atlantique, du Pacifique, des Prairies. Un chef d'équipe de l'Agence du revenu du Canada, ARC, se retrouve derrière les barreaux pour avoir soutiré un pot de vin de 100 000 $ au propriétaire d'un restaurant familial de Montréal en difficulté financière. En imposant une peine de 9 mois de prison à Elias Cobb, le juge Paradis a insisté sur l'importance d'éviter la propagation de la corruption au sein de l'État. « Les traversées entre Montréal et la Rive-Sud pourraient être compliquées durant tout le long week-end de la fête des Patriotes, alors que des travaux forceront la fermeture complète du tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine vers le sud et la fermeture d'une voie de circulation sur trois sur le pont Champlain. De plus, l'autoroute 15 Nord sera encore fermée à la circulation pour toute la fin de semaine à travers l'échangeur Turcot, tandis que les résidents de Laval devront composer avec une fermeture complète de l'autoroute 440 vers l'est, entre la route 117 et l'autoroute 13. Il est à noter que la plupart de ces entraves seront en vigueur jusqu'à mardi matin en raison du jour férié lundi. Les travailleuses de 57 centres de la petite enfance, CPE, syndiquées à la CSN dans la région de Montréal et de Laval, viennent de se doter d'un mandat de grève générale illimité. C'est à 91% qu'elles ont voté en faveur d'un tel mandat de grève à déclencher au moment jugé opportun. Les négociations avec l'Association régionale des employeurs se poursuivent toutefois. Une rencontre doit avoir lieu aujourd'hui et 13 rencontres sont encore planifiées jusqu'à la fin du mois de juin. À noter Nathalie Fontaine, première vice-présidente à la négociation du syndicat des travailleuses en CPA de Montréal-Laval. Une entente de principe avait déjà été conclue pour les travailleuses des CPE pour tout le Québec, incluant les salaires l'automne dernier. Toutefois, dans certaines régions, des problèmes se posent avec les associations régionales d'employeurs quant à des causes normatives comme l'organisation du travail, les horaires, l'ancienneté, la transparence dans les états financiers et l'accès aux congés. Et c'est ce qui bloque dans ce cas-ci, expliquait Mme Fontaine. Dentistes, ingénieurs, infirmières ou psychologues, l'intégration au marché du travail des professionnels formés ailleurs stagne au Québec, selon le Conseil interprofessionnel du Québec, CIQ. En 2016-2017, les 46 ordres professionnels ont accordé 2582 permis d'exercer une profession sur la base de la reconnaissance des compétences, soit près de 14% des nouveaux permis délivrés, un pourcentage qui est resté à peu de choses près, inchangé depuis 2010-2011. « Je ne suis pas surprise de ce résultat », affirme Ghislaine Desrosiers, présidente du CIQ, Conseil interprofessionnel du Québec, qui rend public aujourd'hui le premier portrait statistique de l'action des ordres professionnels québécois. Le dossier des immigrants est un dossier qu'on suit de près depuis un an. 62 % l'an passé, 2307 immigrés ont obtenu une équivalence partielle de leurs compétences acquises à l'étranger. Les ordres professionnels ont délivré 18 878 nouveaux permis l'an dernier. En tout, les ordres professionnels ont rendu 3709 décisions en matière de reconnaissance d'équivalence de diplôme ou de formation en 2016-2017 et 15 % sur les 50 000 nouveaux arrivants que reçoit le Québec par année. Environ 15 % demandent à être admis dans un des 46 ordres professionnels. Un homme a été tué en Floride dans l'explosion de sa cigarette électronique, dont deux éclats se sont fichés dans son crâne, selon le rapport d'autopsie première mort connue aux États-Unis dans un accident de ce type. L'homme de 38 ans avait été retrouvé sans vie le 5 mai à son domicile de Saint-Pétersbourg, sur la côte ouest de la Floride, quand les pompiers sont entrés dans sa chambre en feu. L'incendie avait été provoqué par l'explosion de sa cigarette électronique. L'homme présentait des brûlures sur 80 % de son corps, selon le rapport d'autopsie de la médecine légale révélé cette semaine, qui conclut à une mort par projectile à la tête. Selon le journal Tampa Bay Times, les fragments de la cigarette électronique étaient de la marque Smokey Mountain, dont le fabricant est établi aux Philippines. $8,6 millions, somme en yens, équivalente à près de $80 000 canadiens, réclamée par un moine japonais dans une poursuite ciblant les responsables de son ancien temple à Kyoto. Il les accuse de l'avoir fait travailler dur de longues heures au point de tomber en dépression.
Chekoroba konema koiribe kodimi mefurake. Chekoroba konema koiribe kumabiu befurake. Iridono bomanza. Sanji de na fuiri kadu.
On vient d'entendre la formation Afrotronics et la pièce Gura Nii.
Du devoir de ce 18 mai, CPE, mandat de grève illimité, les travailleuses de 57 CPE de Montréal et Laval ont voté en faveur d'un mandat de grève illimité. Hier, elles ont manifesté dans les rues de Montréal. Alors, on voit une dizaine de femmes entourant une fillette dans sa poussette. Médecins de famille les plus vulnérables doivent s'armer de patience. La frustration des usagers du train de deux montagnes, certains réclament des compensations durant la construction du REM. Histoire. Je poursuis Montréal et Albanie, unis par la contrebande à Fort-Chambly, découvrir le commerce illicite au temps des colonies. C'est un article de Jean-François Nadeau. À Chambly, le musée du Fort propose d'explorer une partie de l'histoire de ces fraudes dans une nouvelle exposition originale intitulée « Contrebande, une exposition à déjouer ». Cannes, la traversée de deux leaders de mai 68, aussi la chronique de José Blanchette, Zeitgeist, la solidarité antidote au chacun pour soi. On parle ici de l'événement entourant l'incendie au devoir. Actualité, les opposants à Martine Ouellette veulent s'assurer de pouvoir mener une lutte à armes égales avec les partisans de la chef bloquiste. Les personnes ayant un handicap intellectuel, un problème de santé mentale ou de toxicomanie doivent attendre en moyenne entre 70 et 122 jours de plus que les autres patients pour se trouver un médecin de famille par le biais du guichet d'accès. Ces résultats émanent d'une recherche présentée l'an dernier à Montréal par la professeure de l'Université de Sherbrooke, Mylène Breton, et son équipe. On y apprend aussi que les patients issus des secteurs les plus cossus attendent en moyenne 34 jours de moins que ceux résidant dans les coins plus défavorisés. Les gens vivant dans des quartiers dans la moyenne attendent, quant à eux, 16 jours de moins que ceux des secteurs plus difficiles. Interpellée à ce sujet, la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, FMOQ, reconnaît l'existence de grands écarts. « Je ne suis pas vraiment surpris des résultats », a expliqué son président, le Dr Louis Godin. « Presque tous les médecins de famille vont être à l'aise de prendre en charge un patient diabétique ou cardiaque, mais avec les patients toxicomanes, ce n'est pas toujours le cas. Quant au décalage entre les secteurs plus défavorisés et plus riches, il concède que ça peut jouer, mais moins que les inégalités fondées sur le type de condition », plaide-t-il. Jeudi, le ministre Gaétan Barrette avait reproché aux médecins de famille de ne pas contribuer à désengorger le guichet d'accès où on trouve pas moins de 300 000 personnes en attente. Pour se défendre, la FMOQ avait justement fait valoir que les médecins faisaient face à des problèmes de plus en plus lourds, notamment en santé mentale. C'est important qu'ils se sentent à l'aise. Ce serait non éthique qu'ils prennent en charge un patient alors qu'ils ne croient pas avoir les capacités ou les connaissances pour bien s'en occuper, a-t-il ajouté en entrevue au Devoir. Un phénomène observé également par Mylène Breton. Pour contrer ces malaises, elle croit qu'il faudrait offrir aux médecins plus de ressources en appui, comme des travailleurs sociaux et des psychologues. Genève, le virus Ebola qui sévit en République démocratique du Congo, RDC, a atteint pour la première fois une zone urbaine où un cas a été confirmé par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui évoque une situation très préoccupante. Un nouveau cas a été confirmé à Wangata, l'une des trois zones sanitaires de Mbandaka, une ville de près de 1,2 million d'habitants de la province de l'Équateur dans le nord-ouest de la RDC, République démocratique du Congo, a indiqué l'OMS. L'arrivée d'Ebola dans une zone urbaine est très préoccupante et l'OMS et ses partenaires travaillent ensemble pour intensifier rapidement la recherche de tous les contacts du cas confirmé dans la région de Mbandaka, a déclaré le Dr Mats Chidizo Moeti, directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Le numéro 1 de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, évoque lui aussi dans le communiqué un développement préoccupant, mais affirme-t-il, nous avons maintenant de meilleurs outils que jamais pour combattre Ebola. L'ancien vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, Jonathan Julien, refuse la main tendue par le maire Régis Labombe, qui espérait le voir réintégrer les rangs de son équipe. Une semaine après avoir claqué la porte du parti Équipe Labombe, M. Julien a fait le point jeudi, déplorant qu'on ait attaqué sa crédibilité et son intégrité. L'élu a été montré du doigt par le maire Labombe, qui l'a accusé de l'avoir échappé dans le dossier de la construction de la centrale de police dans Le Bourgneuf, à Québec. Estimé au départ à 40 millions, le coût de la nouvelle centrale de police est maintenant évalué à 72 millions. De plus, le terrain choisi est trop petit pour accueillir tous les patrouilleurs. Selon lui, M. Labombe était au fait de la situation et aurait dû assumer sa part de responsabilité. Los Angeles, 10 enfants d'une même fratrie ont été retrouvés vivants dans des conditions sordides dans une maison de Californie où ils étaient torturés physiquement et psychologiquement par leurs parents, ont indiqué mercredi les autorités judiciaires. Ina Rogers, la mère âgée de 30 ans, et son mari, Jonathan Allen, 29 ans, ont été arrêtés le 31 mars à leur domicile de Fairfield, au nord de San Francisco, après que la police a répondu à un appel à propos d'un enfant disparu. Le pape François a annoncé jeudi des changements à court, moyen et long terme pour rétablir la justice au sein de l'Église catholique chilienne entachée par des scandales de pédophilie. Dans une courte lettre adressée aux 34 évêques chiliens rencontrés à quatre reprises au Vatican entre mardi et jeudi, le pape ne donne cependant aucune piste sur d'éventuelles sanctions contre des prélats pour certains soupçonnés d'avoir gardé le silence sur des cas d'agression sexuelle. Le souverain pontife argentin évoque un échange franc sur les graves événements qui ont endommagé la communion ecclésiale et fragilisé le travail de l'Église au Chili au cours des dernières années. Le nombre de naissances aux États-Unis a atteint un niveau bas jamais vu depuis des décennies, une tendance démographique qui pourrait peser sur l'économie à l'avenir. Le taux de fécondité pour l'année 2017, publié jeudi par le gouvernement américain, est tombé à 1,76 naissances par femme contre 1,82 en 2016. C'est le plus faible taux depuis 1978, en dessous du taux de renouvellement de la population, 2,1 enfant par femme. En nombre brut, 3,8 millions de bébés sont nés aux États-Unis en 2017, au plus bas depuis 1987, soit 100 000 de moins que l'année précédente. La tendance actuelle a démarré au début de la grande récession en 2007 et 2008. La reprise économique ne l'a pas enrayée. Et pour terminer, une femme entièrement voilée qui avait refusé de retirer son niqab au cours d'un contrôle de police à Toulouse en avril a été condamnée jeudi par la justice française à 6 mois de prison, dont 3 avec sursis. La femme, dont l'interpellation controversée est l'une des raisons évoquées pour expliquer des échauffourées pendant plusieurs nuits entre jeunes gens et forces de l'ordre dans un quartier populaire de cette ville, le Mirail, le mois dernier, était jugée pour dissimulation du visage dans un espace public. La prévenue, qui a immédiatement fait appel de sa condamnation, comparaissait aussi pour rébellion, outrage et menace de mort sur personne dépositaire de l'autorité publique.
Je te bouscule, tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap, j'ai peur tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux presque malgré moi comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos comme d'habitude. Et puis, je m'habille très vite, je sors de la chambre, oui, comme d'habitude. Tout seul, je bois mon café, je suis en retard comme d'habitude. Sans bruit, je quitte la maison, tout est gris dehors, comme d'habitude. J'ai froid, je relève mon col, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer en faire semblant, comme je reviendrai
comme d'habitude. Toi, tu seras sorti, pas encore rentré, comme d'habitude. Tout seul, j'irai me coucher dans ce grand lit froid, comme d'habitude. Mais là, je les cacherai, comme d'habitude. Comme d'habitude, même la nuit, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, tu rentreras. Comme d'habitude, je t'attendrai. Comme d'habitude, tu me souriras. Comme d'habitude, comme d'habitude, tu te déshabilleras. Comme d'habitude, tu te coucheras. Comme d'habitude, on s'embrassera.
Rachid Taha, Khaled et Faudel nous reprenaient comme d'habitude.
À la une du Journal de Montréal, partenariat public-privé du CUSUM, $1 million pour ses locaux vides. J'ai mon carré de sable. C'est une citation de Joël Bouchard, nouvel entraîneur-chef du Rocket. 21 activités pour le long week-end. Il vous cache des choses. Projet de loi déposé, un beau gros zéro. C'est une chronique de Claude Villeneuve. Consommation essence, les Montréalais les plus taxés au pays, les automobilistes de la métropole québécoise payent $971 chacun en taxes sur l'essence par année. Les Montréalais paient 6 taxes sur l'essence, ce qui équivaut à 40% du prix qui est payé. Comme nous sommes les plus taxés, on devrait s'attendre à des infrastructures extraordinaires, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, déplore Carl Vallée, directeur Québec de la Fédération canadienne des contribuables, qui a publié cette étude hier. Les automobilistes paient chaque année 2,9 milliards en taxes lors de leurs achats à la pompe. C'est presque $200 de plus par automobiliste que la moyenne des Canadiens. Taxes payées dans différentes villes canadiennes. 6e place, Winnipeg, 31 cents le litre. Calgary en 5e, 36. Toronto, 45 cents le litre. Saint John's, Terre-Neuve, 48 cents le litre. Vancouver en 2e. Ex-aequo avec Québec, 51 cents et Montréal, 57 cents le litre. Calcul effectué avec l'essence à $1.45 le litre. Le chaos à l'aéroport est loin d'être terminé. Les voyageurs doivent prendre leur mal en patience. Hier encore, en fin de journée, même si le site web de l'aéroport indiquait 30 minutes d'attente pour les vols vers l'Europe, les destinations soleil et ailleurs au Canada, le temps réel pour passer au point de contrôle était d'un 1h15 minutes selon des usagers. Une situation fréquente en fin d'après-midi depuis au moins 2 semaines. Nous sommes en période de changement d'horaire pour les vols et les agents de contrôle pré-embarquement. C'est l'un des facteurs des retards, reconnaît Michel Courcy du syndicat des métallos qui représente les agents de contrôle de l'Agence canadienne de la sécurité du transport aérien. Ainsi, durant les périodes de fort achalandage, il n'y a pas assez de personnel prévu pour vérifier les passagers rapidement. Il y a parfois un manque de coordination entre les gros vols. Il suffit d'un seul retard pour semer le chaos. Mais il n'y a pas de solution miracle. Il faut que les vérifications soient faites, a confié au journal une employée d'une compagnie aérienne populaire la fin de semaine. Jumelée aux travaux en cours dans le terminal qui réduisent les points de contrôle, il suffit de peu pour tout retarder. Si la question de l'arrimage des horaires sera réglée dans les prochaines semaines, M. Courcy ajoute qu'il y a tout de même un manque d'effectifs général. L'employeur souhaite recruter une centaine de personnes supplémentaires, mais le processus d'embauche et de formation ne se fait pas aussi rapidement qu'il le voudrait, soutient-il. Les réfections doivent se terminer dans les deux prochaines semaines, selon Aéroports de Montréal. Dans une réponse laconique par courriel, l'Agence canadienne de la sécurité du transport aérien affirme toutefois que l'augmentation du volume de passagers est à l'origine de la hausse du temps d'attente. Desjardins au secours des caribous. Cette harde est un trésor faunique, lance M. Desjardins, le chanteur, poète. On n'a pas le choix de tout tenter pour la sauver. C'est notre responsabilité. En collaboration avec l'Action boréale, Nature Québec et Greenpeace, le chansonnier et documentariste lancera une pétition en ce sens le 22 mai, Journée internationale de la biodiversité. En mars dernier, le gouvernement Couillard a annoncé qu'il laisserait disparaître les 18 bêtes qu'il reste en Abitibi-Témiscamingue, car il juge les coûts pour restaurer leur habitat trop élevés par rapport à la probabilité de les sauver. Les masques à gaz s'envolent, tant les manifestants que des résidents des secteurs à risque se préparent au débordement. Selon le propriétaire de la boutique militaire Québec, Pascal Lemieux, les masques à gaz sont particulièrement populaires à l'approche du G7. Les manifestants font leurs achats en prévision des différentes manifestations prévues à Québec, mais des citoyens prévoyants se sont aussi équipés pour affronter les débordements potentiels. Au-delà de la vigilance des commerçants, les policiers ont aussi demandé leur collaboration pour identifier d'éventuels manifestants. Chez Bétonnel, on confirme avoir eu la directive d'identifier subtilement les acheteurs de produits ciblés. Santé Canada a lancé une mise en garde contre les risques associés aux brosses métalliques pour barbecue. Le ministre fédéral de la Santé recommande aux Canadiens d'inspecter régulièrement la brosse métallique pour barbecue, de vérifier s'il y a des poils de brosse sur les grilles ou dans les aliments cuits, et de cesser son utilisation si des poils s'en détachent. Ottawa suggère carrément de remplacer périodiquement la brosse pour éviter des problèmes liés à l'usure. À force d'être utilisées, les brosses métalliques dont beaucoup de gens se servent pour nettoyer l'appareil perdent de leurs poils, a indiqué Santé Canada dans un communiqué précisant que s'ils sont ingérés, ces poils peuvent causer de graves problèmes de santé. À Riffle, petite bourgade du Colorado, on peut manger un burger entouré d'armes. La patronne du restaurant Shooter's Grill, Lorraine Bobert, ses serveuses et les clients en portent une à la ceinture. Elle a ouvert ce restaurant au nom prédestiné, le Grill des tireurs, dans une ville qui l'est tout autant, Riffle Fusil, avec son mari Jason en 2013. Le couple qui découvrait la restauration a choisi une décoration western pour son établissement situé à côté d'une armurerie. Le Colorado est l'un des 45 États autorisés sous certaines formes le port d'armes visibles au nom du deuxième amendement de la Constitution. J'ai dit rifle, mais je pense qu'on dit rifle. Des mises à pied Malgré le contrat de près de 500 millions pour 150 nouvelles voitures n'arrivera pas assez vite. Bombardier devra mettre à pied au moins 200 travailleurs à son usine de la Pocatière malgré la signature imminente d'un contrat pour de nouvelles voitures du métro de Montréal, a appris le Journal de Montréal. D'ici la fin du mois, Bombardier Transport enverra un avis de licenciement collectif au ministère du Travail indiquant que de 200 à 250 salariés seront mis à pied, d'août à décembre. Les mises à pied coïncideront avec les dernières livraisons des 468 voitures de métro Azur commandées au consortium Bombardier-Alstom en 2010. Et les négos à la SAQ sont dans l'impasse. Les employés de magasins négocient depuis 15 mois. Les négociations entre la Société des alcools du Québec, la SAQ, et ses employés de magasins et de bureaux sont dans l'impasse. Les deux parties négocient depuis plus de 15 mois. Selon le syndicat des employés de magasins et de bureaux, SEMB-SAQ, ou SEMB trait d'union SAQ, les pourparlers visant le renouvellement de leur convention collective sont dans un cul-de-sac. Le syndicat dit s'être retiré de la table pour analyser la suite des choses. On vous confirme qu'on est dans une impasse. C'est très, très difficile. La liste des demandes de l'employeur est impressionnante, indique la porte-parole du SEMB-SAQ, Katia Lelièvre, dans une vidéo destinée aux membres de l'unité syndicale. Le SEMB soutient que les demandes de la SAQ portent notamment sur le déplacement d'heures de l'horaire de travail des employés permanents.
Je me sens un petit peu pogné, je voudrais bien sortir, mais j'ai pas la clé. J'ai le blues d'être tout seul en prison. J'attends enfin le jour où je pourrai partir, mais si on m'ouvre la porte, moi je m'en vais déguerper. J'ai le blues d'être tout seul en prison. J'essaie de voir le ciel, mais le plancher est frais, pis rentre pas de soleil. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Je pense à mes amis qui font tout plein de conneries, mais ils ont jamais rien fait pour me sortir d'ici. J'ai le blues d'être tout seul en prison. j'en peux plus de la vie. Je me suis cassé une corde avec les drones, mon lit. J'ai le blues d'être tout seul en prison. Et même si Dieu lui-même il veut me faire la peau, ben sur mon petit nuage, y'en aura pas de barreau. J'ai plus le blues d'être tout seul en prison. J'ai plus le blues d'être tout seul en prison. J'ai plus le blues d'être tout seul en prison.
Les chercheurs d'or nous chantaient le blues d'être tout seul en prison.
Les journaux régionaux se préparaient au pire derrière le volant. C'est un article de Julien Paquette dans Le Droit. Conduire avec les facultés affaiblies en toute sécurité et sans risque de fâcheuses conséquences est possible? Peut-on se pratiquer à réagir face à un imprévu dans des conditions routières difficiles? De jeunes conducteurs avaient l'occasion d'expérimenter ces aspects plus complexes et rares de la conduite automobile jeudi à Ottawa. La formation des bonnes habitudes pour la vie de Ford sera également offerte gratuitement toute la journée vendredi. En deux jours, ce sont des dizaines d'automobilistes peu expérimentés qui auront reçu les conseils de professionnels pour savoir comment réagir devant un tas de situations qui peuvent survenir derrière le volant. C'est aussi une occasion de sensibiliser ces jeunes aux effets pervers de l'alcool et des drogues sur la capacité de conduire. L'important, c'est la sécurité, explique l'instructrice Isabelle Tremblay. À travers différents exercices, on leur montre comment reprendre le contrôle après avoir évité une situation de justesse. C'est vraiment un complément à une école de conduite. Le droit a eu l'occasion d'essayer certains des ateliers présentés à l'aéroclub de Rockcliffe, notamment la conduite sur un parcours fermé avec une distraction, un téléphone mobile et avec des lunettes qui brouillent la vision pour simuler la consommation d'alcool. Un constat s'impose, on sous-estime l'impact de ces facteurs sur la capacité à conduire, surtout lorsqu'on parle des sources de déconcentration comme les textos, la radio ou une discussion avec une autre personne au sein du véhicule. Rapidement, à l'ajout d'obstacles et de distractions, les erreurs se sont multipliées sur le parcours mis en place par les experts, et ce, même si la vitesse moyenne était inférieure à 15 km/h. L'instructeur Francis Marquis souligne que dans le cas de la simulation de conduite avec facultés affaiblies, la vision est affectée, mais pas la capacité de concentration. C'est suffisant pour écraser quelques cônes durant notre essai. C'est sûr que quelqu'un qui conduit en état d'ébriété ne va peut-être pas avoir ce niveau de concentration. La petite erreur qui fait qu'on renverse un cône à 15 km/h devient amplifiée grandement, explique M. Marquis. Une élève de l'école secondaire catholique anglophone Saint-François-Xavier d'Ottawa, Katie Dale, s'était inscrite à la séance de formation de jeudi matin. Elle raconte que son père l'a fortement incitée à participer à cette activité. Dans la rue, les choses peuvent arriver vraiment vite. C'est bon pour apprendre quoi faire quand ça se produit, être en confiance et savoir qu'on est capable de s'en sortir. C'est bon de pratiquer dans un environnement fermé et sécuritaire, affirme l'adolescente qui a un permis de conduire valide depuis environ 2 mois. Quelqu'un qui conduit depuis longtemps, il sait à quoi s'attendre en conduisant régulièrement. On met les jeunes dans ces situations pour qu'ils apprennent à les gérer, dit Isabelle Tremblay. Ils vont apprendre des manœuvres d'urgence tout en s'amusant. À la fin de la journée, tous ces étudiants vont avoir le sourire et ils vont en parler à tout le monde. L'activité des bonnes habitudes pour la vie est passée par Ottawa une fois l'an au cours des 5 dernières années. Dans le Nouvelliste, François Houde de Jacques Lacombe quittait sur une bonne note. Maestro Jacques Lacombe dirigera son dernier concert par l'OSTR avant son année loin de l'orchestre Trifluvien ce samedi 19 mai à 20h à la salle Thompson alors qu'il abordera l'opéra Faust de Gounod. Le chef entretient un sentiment ambivalent envers cette prestation. Il y a évidemment un certain pincement au cœur du fait que ce sera mon dernier concert avant ma sabbatique, mais de la fébrilité aussi parce que c'est un nouveau défi que j'amorce à Mulhouse. Bien sûr, ça me fait quelque chose de quitter toute cette équipe et l'orchestre lui-même parce que je suis à la maison ici. Je connais bien les musiciens et vice-versa. Ce sont des conditions de travail très stimulantes que je délaisse à regret. Par contre, je sais que l'orchestre sera entre bonnes mains pendant mon absence et qu'il va continuer à bien évoluer artistiquement au cours de la prochaine saison. Les musiciens vont connaître d'autres chefs et d'autres façons de faire pendant mon absence. Il n'y a pas une seule vérité en musique, mais des vérités, et les musiciens en seront enrichis. Qui sait, au retour, si je ne vais pas retrouver un orchestre plus souple et encore meilleur qu'au moment de le quitter. Autre objet de préoccupation pour le directeur musical, la santé financière de l'orchestre, axe incontournable de son développement à venir. Nous sommes dans une importante période de réflexion à la direction qui doit trouver des moyens pour assurer un avenir plus brillant encore pour l'OSTR. Je sais que le conseil d'administration travaille très fort à imaginer des formules qui vont inciter davantage au mécénat local. Malgré la constante fragilité financière d'un orchestre de l'ampleur de l'OSTR, il est acquis que Jacques Lacombe sera de retour dans un an. On en veut pour preuve son emploi du temps planifié 2 ans à l'avance qui le ramène au pupitre de l'orchestre l'an prochain. On a même déjà déposé un canevas de programmation jusqu'en 2020. Quoi qu'il en soit, le chef quittera sur une note heureuse, un concert qui touche à une corde sensible et à une de ses spécialités, l'opéra. Un opéra, c'est toujours une question de timing. Ça prend des voix particulières adaptées aux rôles qui sont disponibles à bon prix. Si je peux trouver un jeune chanteur prêt à aborder le rôle qu'on cherche et qui est disponible pour venir le casser ici avant d'aller le faire à New York ou à Paris, c'est la formule gagnante. C'est le cas de notre soliste cette semaine, Jean-Michel Richer, qui chantera son premier Faust. Depuis que je fais de la musique comme petit chanteur ou comme pianiste accompagnateur de classes de chant, j'ai développé une affection pour le chant et l'opéra. La voix m'a toujours accompagné dans mon parcours, j'ai fait plus d'une centaine d'opéras, dit M. Lacombe. Pour ce qui est de la saison qu'il a élaborée comme une façon de se rappeler à notre bon souvenir au cours de la prochaine année, il estime à l'image de ce qu'il a fait avec l'OSTR depuis 12 ans. C'est une saison que j'estime assez originale, ce qui n'est rien de nouveau pour nous parce qu'on présente des programmations originales depuis longtemps. Exemple assez éloquent, je pense au concerto pour harmonica de Denis Lessard, l'astronaute, que j'ai inclus dans le concert d'ouverture de la saison aux frontières du cosmos avec Star Wars, Suite et les planètes de Rose. À noter par ailleurs que Jacques Lacombe sera aujourd'hui même l'objet d'un grand honneur puisqu'il recevra à Trois-Rivières la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel. Dans la tribune, Gaston Schanck et ses deux filles, Vanessa Desloges Schanck et Mélanie Lemay-Schanck, ont été formellement accusés en lien avec le vol des cartes d'essence prépayées envoyées par la Poste aux consommateurs sherbrookois floués lors du cartel de l'essence. Le trio avait été pris sur le fait alors qu'il volait les cartes de 10 $ qui étaient distribuées dans les boîtes aux lettres. L'homme de 49 ans et les deux femmes de 31 et 28 ans sont accusés d'avoir fait la tournée des boîtes aux lettres d'immeubles à logement du secteur de la rue des Jardins Fleury, en janvier 2018, à la recherche des cartes de compensation de 10 $ qui étaient acheminées par la Poste. Brûlé par l'explosion de sa vapoteuse, tantôt je vous ai lu un texte à propos d'un événement qui s'était produit en Floride. Cette fois, c'est à Arvida. Un homme d'Arvida a subi des brûlures à la main et à l'avant-bras dimanche matin quand sa cigarette électronique a explosé. Un simple changement de pile serait à l'origine de l'incident qui aurait pu mettre une famille à la rue, étant donné que l'explosion a eu lieu dans la chambre conjugale. C'est dans le quotidien Guillaume Saint-Pierre qui signe l'article. Les images publiées sur Facebook montrent les blessures qu'a subies l'homme alors qu'il remplaçait la pile de sa cigarette électronique. Qualifié de véritable feu d'artifice, la déflagration issue de la vapoteuse a occasionné des cloques sur sa main gauche, ainsi qu'une série d'œdèmes sur le poignet du malheureux. L'homme qui était au lit a évidemment lâché l'objet. La chaleur issue de la vapoteuse ainsi que les étincelles liées à sa combustion ont par la suite causé des dommages à la literie, de même qu'aux vêtements qui se trouvaient tout près. Heureusement, la gestion de l'incident a permis d'éviter que le foyer ne s'embrase. Selon ce qu'il a été possible de savoir, ce serait vraisemblablement la pile amovible qui serait en cause dans cette explosion. Bon vendredi à tous, à l'aube d'un long congé, c'est Hélène Denis qui vous accompagne et je vous invite à rester avec nous dans un petit moment, les actualités culturelles. J'aurai pour vous beaucoup, beaucoup de suggestions sorties pour ce week-end de 3 jours et aussi il y aura les sujets libres. On parlera entre autres d'un certain mariage.
Paris et... On a hâte de faire écouter.
On vient d'entendre oui, Catherine Ringer, la pièce Abra et Sawira, Paris.
Actualité artistique, dis-moi ce que tu lis, Nathalie Collard, qui parle du film Book Club ou Club de lecture en version française. Une fois par mois, quatre copines dans la fin soixantaine se réunissent pour leur club de lecture. C'est l'occasion de parler littérature, mais surtout de siroter un verre de vin, de se mettre à jour sur la vie de chacune. Viviane, Jane Fonda, propriétaire d'un luxueux hôtel, est une croqueuse d'hommes qui fuit l'engagement. Carole est chef d'un resto et tente de conquérir ou de reconquérir son mari nouvellement retraité qui a la libido à zéro. Diane, Diane Keaton, est veuve depuis un an et doit gérer l'attitude surprotectrice de ses deux filles adultes. Enfin, Sharon, Candice Bergen, juge fédéral divorcé un peu bourru, a définitivement tracé un X sur l'amour et partage sa vie avec son chat. La vie des quatre femmes sera bouleversée lorsque Viviane proposera la lecture du sulfureux roman « 50 Shades of Grey »,« 50 nuances de Grey ». Les quatre copines sexagénaires s'embarqueront dans toutes sortes d'aventures amoureuses, plus rocambolesques les unes que les autres. Imaginez les filles de Sex and the City 30 ans plus tard avec quelques rides en plus, mais autant sinon plus de Chardonnay. Au mieux encore, les quatre protagonistes de la défunte comédie Golden Girls. Les quatre copines ont beau frôler les 70 ans, elles picolent et leur foi semble à toute épreuve. Bien sûr, quand il est temps de parler du vieillissement des femmes, aucun cliché ne nous est épargné, blagues sur les gaines, allusions à la chirurgie plastique et au Viagra, etc. Toutefois, parce qu'on est en 2018, les dialogues sont assaisonnés de phrases à saveur féministe sur le pouvoir des femmes de décider de leur destinée et de leur sexualité. On n'est pas face à des grands-mères, mais bien à des femmes qui ont l'intention de jouir de la vie jusqu'à la dernière seconde. Quant aux personnages masculins Don Johnson, Craig T. Nelson, Richard Dreyfuss et Andy Garcia, ils servent surtout de faire valoir. Au bout du compte, Book Club, ou Club de lecture, est un film sans surprise ni inventivité qui est cependant sauvé par la présence réjouissante de ces quatre grandes pointures hollywoodiennes. Quatre femmes à la feuille de route impressionnante qui semblent s'en donner à cœur joie dans ce film. Diane Keaton est plus Diane Keaton que jamais. Quant à Candice Bergen, elle siffle les meilleures répliques du film sur un ton peint sans rire que ne renierait pas Murphy Brown. Le film parfait pour un groupe de copines qui ne veulent pas se casser la tête. Alors, Nathalie Collard accorde 2,5 étoiles à ce film qui prend l'affiche aujourd'hui. Et j'ai eu le plaisir d'assister à cette première, je pense que c'était, en tout cas, en début de semaine. Et moi, je donnerais 3 étoiles. On ne boude pas son plaisir et c'est surtout le plaisir de voir ces actrices qui pourraient être dans un film un peu plus profond, mais dans cette comédie pleine de clichés, mais avec beaucoup d'humour, on passe un bon moment. Book Club ou Club de lecture à voir au cinéma en fin de semaine. Une journée de plus de francophonie. Le président du groupe CH, Jeff Molson, qui regarde Safia Nolin chanter le blues du businessman, qui l'aurait cru? Émilie Côté, qui écrit l'article dans la presse, est bel et bien arrivée hier à la conférence de presse tenue par les Francopholies de Montréal pour annoncer notamment un spectacle de clôture extérieure tiré de Stone, l'hommage du Cirque du Soleil à Luc Plamondon. Le groupe CH est propriétaire du promoteur Evenco et de l'équipe Spectra qui produit les Francopholies. Des journalistes sportifs étaient présents à la conférence de presse pour recueillir les commentaires de Jeff Molson sur la nomination de Joël Bouchard comme entraîneur-chef du Rocket de Laval. Or, les médias étaient conviés pour l'annonce de 2 spectacles extérieurs gratuits et d'un partenariat commanditaire technologique et médiatique de 10 ans avec Bell. 10 ans d'engagement, c'est beaucoup, a souligné Jacques-André Dupont, PDG de Spectra. Les Francos seront encore plus solides, a renchéri Jeff Molson. De son côté, Laurent Saunier, le vice-président à la programmation, a annoncé l'ajout d'une journée de plus au festival, le 17 juin pour souligner le 30e anniversaire des Francofolies. À l'affiche ce dimanche-là, deux grands événements extérieurs présentés gratuitement sur la place des festivals. Il y aura d'abord un spectacle hommage à Jacques Higelin, mort le 6 avril dernier. Yann Perrault sera le chef d'orchestre et il sera accompagné d'Hubert Lenoir, Catherine Major et Anna Frances Meyer du groupe Les Deux Luxes. Jacques Higelin est peu connu du public québécois. C'est un choix audacieux, mais c'est dans le mandat des Franco d'oser de célébrer des gens importants de la chanson. J'ai décidé d'aller puiser dans ses chansons plus rock et extraverties, a dit Yann Perrault. Perrault chantera notamment Paris-New York, New York-Paris. Son house band sera composé d'ex-membres de la salle à faire, souligne-t-il, soit Yves Desrosiers, François Lalonde, Gilles Brisebois ainsi que Martin Lizotte au clavier. Ensuite sera présenté Stone, tiré de l'album du spectacle du Cirque du Soleil en hommage à Luc Plamondon. Seront réunis sur scène les Safia Nolin, Valérie Carpentier, Martha Wainwright, La Bronze, Ariane Moffat, Betty Bonifaci, Claude Pelgag, Bérise, Catherine Major, Marie-Pierre Arthur et Gabrielle Chang. D'une chanson à l'autre, on change d'univers, souligne le directeur musical Jean-Phi Goncalves. Les arrangements de Jean-Phi sont très personnalisés pour chaque artiste, souligne Marie-Pierre Arthur, qui interprétera « Ma mère chantait toujours ». Alors ça ici, c'est plus un hommage à Plamondon qu'à Stone. Stone, donc, hommage à Plamondon, c'est justement ça. Le but de l'affaire, c'est de rendre hommage à Plamondon à travers toutes ses chansons, ou presque, aura lieu donc le 17 juin à 21h sur la place des festivals, précédée à 19h30 de Yann Perrault, « Tombé du ciel, un salut au grand Jacques Higelin ». André Lachapelle, Gilbert Sicotte, Yves Landry et Éric Robidoux font partie de la distribution du long-métrage « Il pleuvait des oiseaux » dont la réalisation a été confiée à Louise Archambault, la réalisatrice de « Gabriel » notamment. Au cours d'un entretien téléphonique, cette dernière indique que faire la distribution de ce film est assez exigeant et demande des gens en bonne forme physique. « J'ai des scènes physiques et intimistes à tourner et on est loin de la ville. Nous tournerons en pleine forêt à 1 heure de Québec dans le parc du Mont-Tremblant » et dans un troisième lieu qui reste à déterminer, dit-elle. Il reste encore des comédiens à trouver. Adapté du roman de Jocelyne Saussier, le film raconte l'histoire de Boy Chuck, Tom et Charlie, trois vieillards qui vivent coupés du monde dans une forêt d'Abitibi. Produit par les films Outsiders, le film sera tourné en juillet et en août. Luc Plamondon, compositeur de Starmania, l'opéra rock qui a lancé la carrière de Morane en France, a dit adieu hier à Bruxelles à la chanteuse belge morte le 7 mai à 57 ans. Elle habitait la scène comme personne, elle était comme les grandes stars américaines, elle me faisait penser à Ella Fitzgerald, s'est-il remémoré. Et la chanteuse belge canadienne Lara Fabian était elle aussi présente aux obsèques de Morane.
Alors on dort. Alors on dort. Alors on dort. Qui dit études dit travail. Qui dit taf te dit les thunes. Qui dit argent dit dépenses. Qui dit crédit dit créance. Qui dit dette te dit huissier. Et lui dit assis dans la merde. Et qui dit amour dit les gosses. Dit toujours et dit divorce. Qui dit proche te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise de dix mondes, dix famines, dix tiers-monde. Et qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus, eh ben y en a encore. Et c'est la zique ou les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Alors on chante. Et puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse.
Stromae, alors on danse.
La presse à Windsor, mariage princier de l'excitation et des exclus avant le grand jour, c'est Jean-Christophe Laurence dans la presse de ce matin. Elle s'est réveillée en panique. Contrairement à ses voisins, elle n'avait pas encore décoré sa maison. Gênant, considérant qu'elle habite presque en face du château de Windsor, dans la rue où défilera demain le cortège princier. Avant son premier café, Mary Frances est donc allée se procurer des fanions et des drapeaux britanniques de toutes les tailles, dont un immense Union Jack avec les têtes de Harry et de Meghan, qu'elle a fini par accrocher sur sa luxueuse façade par-dessus ses plantes grimpantes. C'est un vrai buzz et cela n'arrivera qu'une fois. Il faut bien fournir notre part d'effort, lance la joyeuse retraitée qui nous accueille dans son jardin, à l'endroit même où, demain, à la même heure, elle recevra des amis pour voir passer les nouveaux mariés. C'est peu de dire que la dame est aux premières loges. Elle n'aura qu'à attendre le coup pour assister au spectacle. Mais elle n'est pas la seule, loin de là, à trépigner avant le mariage princier. De fait, toute la ville de Windsor, Angleterre, pas Ontario, précisons, semble en train de virer sur le top, en prévision de l'événement nuptial. C'était palpable hier à 48 heures du grand jour. Tandis que les Bobbies installaient les dernières barrières pour le cortège, on sentait une grande fébrilité autour du château, où médias, touristes et commerçants jouaient des coudes dans les rues envahies de drapeaux britanniques. Question d'afficher leurs couleurs, certains fans de la famille royale s'étaient habillés en Union Jack des pieds à la tête. D'autres, encore plus motivés, campaient sur le trottoir depuis au moins 2 jours afin d'avoir une vue imprenable sur le cortège princier. Du jamais vu dans cette bourgade d'à peine 50 000 habitants qui attire pourtant près de 6 millions de visiteurs par an. Il y a toujours des touristes à Windsor, mais cette fois l'atmosphère est différente. Non seulement toutes les chambres sont réservées, mais j'ai un client qui a réservé sa chambre pour tout le mois de mai, parce qu'il ne connaissait pas encore la date du mariage, a dit Sarah Flint de l'hôtel Royal Adelaide. Près de 150 000 visiteurs seraient attendus demain, ce qui fera littéralement quadrupler la population de la petite ville de Berkshire. Les rues seront bouclées, le centre-ville interdit aux voitures, la présence policière accrue. Si certains résidents ne cachent pas leur agacement, ça va être un sacré bordel, lance Dan, rencontré dans l'autobus. La plupart semblent plutôt s'en réjouir, trop heureux d'assister à ce moment historique qui verra un prince anglais épouser une roturière américaine, divorcée et de surcroît mulâtre. C'est le cas de Patty Sparks, croisée en bordure du Long Walk, le fameux chemin menant au château, avec un chien miniature ressemblant étrangement au corgi de la reine. « Je suis terriblement excitée, dit-elle, parce qu'on n'a pas souvent vu Harry par ici. Demain, toute ma famille vient dormir à la maison. On se lève à 4 heures du matin pour avoir une place et bien voir le cortège. Ce sera génial. Elle est géniale. Il est super. N'écoutez pas les cyniques. Ça va durer, j'y crois. » Une union inédite, un peuple en liesse, un happening médiatique. On pourrait presque croire au conte de fées. Mais il y a l'envers du décor, car en dépit de son côté résolument élitiste, le chanteur Elton John et l'acteur Daniel Craig y habitent, Windsor n'échappe pas au problème de l'itinérance en partie causée par l'insuffisance de logements abordables. Ce ne serait pas en soi un événement si le chef conseiller de la municipalité, le conservateur Simon Dudley, n'avait envoyé une lettre à la police début janvier lui demandant de trouver une solution à cette épidémie avant le mariage princier afin de présenter la ville sous un meilleur jour. Il n'en fallait pas plus pour que l'affaire devienne nationale, nombre d'organismes et de militants de gauche montant au créneau pour dénoncer ce sombre projet de nettoyage social. Les gens seraient devenus moins fous si Dudley n'avait pas fait de lien avec le mariage, estime Murphy James, responsable du Windsor Housing Project qui offre le gîte aux sans-abri. 5 mois plus tard, la situation a peu changé selon lui. Ce qu'on a pu constater hier en se promenant dans la rue principale en contrebas du château. Devant le magasin Marks & Spencer, Wayne mendiait au milieu de ses sacs assis sur le trottoir. Frappant contraste à côté des touristes tirés à 4 épingles qui passaient sans le remarquer. Pour le moment, personne ne m'a dit de partir, dit-il. Mais je suis sûr qu'ils vont le faire parce que j'en connais d'autres qui ont été déplacés. Une intuition que partage Murphy James. Je suis assez certain que de nouveaux refuges pour sans-abri vont apparaître miraculeusement d'ici samedi, lance-t-il. Mais il faudra surtout voir s'ils sont encore là dans un mois. À mon avis, la vraie question, elle est là. »21 activités pour le long week-end, comme on sera nombreux à avoir congé lundi pour la Journée nationale des Patriotes. Ce sera un bon long week-end pour profiter de la vie. Alors voici donc les suggestions qu'on trouve dans la section « Sortir du Journal de Montréal » de ce vendredi 18 mai 2018. Poudza Fest. En fin de semaine, Poudza Fest nous propose la musique de plus de 150 groupes de punk rock dans plusieurs salles du quartier des spectacles. On pourra aussi se promener sur le parterre du quartier des spectacles où plusieurs shows et activités seront gratuits. Samedi matin, 10h, ce sera le Poudza Bambino. Dimanche, 10h30, on aura du yoga et de la méditation PUNX. Pour la programmation, consultez le site poudzafest.com. Vive la salsa! Si vous aimez la salsa, vous allez passer le week-end au Complexe des Jardins. Il y aura des spectacles, des cours et des compétitions. Vendredi, aujourd'hui, de midi à 13h30, un cours et un spectacle gratuit. Samedi et dimanche, de 10h à 17h, des compétitions et des spectacles gratuits. Vous pourrez également assister à plusieurs spectacles payants et à un barbecue. Consultez Facebook sous Montréal Salsa Convention. Les amateurs de musique électronique pourront se réjouir car l'événement pique-nique électronique, incontournable donc événement, dimanche, recommence cette fin de semaine. On pourra entendre Anna, Chris Tin, /NAF. C'est donc dimanche de 14h à 21h30 à la plaine des Jeux du Parc Jean-Drapeau. Tarif, $14.50. Les tam-tams du dimanche. Le dimanche après-midi, quand il fait beau, on apporte son pique-nique et son tam-tam ou on se promène simplement au pied du Mont-Royal. Il y a toujours quelques camions de cuisine de rue sur place. C'est donc tous les dimanches jusqu'en octobre autour du monument Sir Georges-Étienne Cartier et c'est gratuit. Dumas en solo, un spectacle à hauteur d'homme, le bonheur. Il n'y a qu'un mot pour décrire la musique de Dumas. C'est ce soir, 20h, à la salle d'entrepôt à la Chine, tarif 25 $. On continue, 21 activités pour le long week-end. Ça y est, c'est reparti pour l'été. Vendredi midi, on entendra le groupe Le Trio Barbecue au Midi Jazz au Jardin Gamelin. De 17h à 23h, on aura de la musique électronique avec The Hands. Samedi, on brunch avec la fièvre du samedi matin de 11h à 15h. Et on danse au son de la République dominicaine de 19h à 23h. Dimanche, Sentier Urbain propose des activités thématiques de 11h à midi. Cette fin de semaine, on planifie son potager. Lundi, 19h, on fera du karaoké. Consultez le site quartierdespectacles.com jusqu'au 30 septembre. Une multitude d'activités gratuites. Les enfants au Jardin Gamelin, dimanche, de 10h à midi, les tout-petits, les familles pourront assister à des spectacles et participer à des ateliers de sensibilisation aux arts. En fin de semaine, un spectacle de marionnettes, une course à obstacles pour les 18 mois à 7 ans. Un chalet où la lecture est à l'honneur, consultez encore une fois le site quartierdespectacles.com. Coup de théâtre pour les enfants. Dans le cadre du festival Les coups de théâtre qui a lieu jusqu'au 27 mai, on pourra voir le spectacle italien Romanzo d'Infanzia qui s'adresse aux 6 ans et plus. Consultez le site coupdetheatre.com pour les autres représentations. De A à Z, 26 clins d'œil sur ta ville. À l'espace jeune, les enfants peuvent participer à une exploration de Montréal grâce aux 26 lettres de l'alphabet qui dévoilent un aperçu de la ville. La poète Jeanne Pinchot ajoute une touche spéciale à la visite avec un abécédaire artistique. On consulte le site banq.qc.ca jusqu'au 3 juin, fermé le lundi à la Grande Bibliothèque Espace Jeune, et c'est gratuit. Alors, je n'ai pas le temps de tout vous donner les 21 activités, mais je vais quand même donner les titres. Ça va vous donner déjà une bonne idée. Picasso au Musée des beaux-arts de Montréal dans le cadre d'une exposition Picasso en face à face d'hier à aujourd'hui. Des ateliers pour les enfants au MBA au Musée des beaux-arts de Montréal tous les dimanches de 10h15 à 11h. Et les petits chanteurs du Mont-Royal, la Folia Messe de Widor pour deux chœurs sera chantée par les petits chanteurs du Mont-Royal en fin de semaine, dimanche 15h30, dans la Basilique de l'Oratoire Saint-Joseph, contribution à discrétion, jouée aux échecs géants sur Sainte-Catherine entre la rue Jeanne-Mance et la rue Saint-Urbain. Jusqu'au 27 mai, c'est gratuit. 21 balançoires, c'est sur la promenade des artistes, située en face du métro Place des Arts jusqu'au 27 mai. Des fleurs au Jardin botanique, un marché de fleurs dans Hochelaga, l'art fait son nid au 10-30 exposition, le solde de livres de la bibliothèque, il faut en profiter, l'allée des bouquinistes, la foire des vélos à Verdun et une visite à la ferme tous les jours de 9h à 17h au parc Nature Cap-Saint-Jacques. C'est gratuit, stationnement payant. Alors, un grand merci d'avoir été à l'écoute de l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite un beau long week-end. On se retrouve mardi. Merci Maurice Bolduc, bonne fin de semaine. Maurice qui était à la mise en onde et au choix musical. À très bientôt.